Lecture d'été, lecture des terres, tous les jours à 11h et à 16h et en replay sur fréquence7.net. Lecture d'été, lecture des terres. Chères Ardéchoises, Ardéchois d'un jour ou de toujours, liseurs, liseuses, glaneuses d'idées et de rêves, vous êtes bien, voire très bien, sur Fréquence 7 et vous écoutez Lecture d'été, Lecture des terres. Car oui, à l'ombre des grillons, au son des glaçons, à l'heure de la caillette, vous vous demandez bien quel livre commencer pour vous détendre du préjugé et vous dorer l'esprit critique. Heureusement, les passeuses et passeurs de livres ici en Ardèche sont là pour vous répondre, pour vous conseiller et vous détourner du prêt-à-penser, du prêt-à-rêver, du prêt-à-lire. Et aujourd'hui, les bons conseils prodigués sont ceux de Marie de Apso, amie du peuple du Sahara occidental. Bonjour Marie.
Bonjour Sophie. Salut Sylvain.
Salut.
Et salut Sylvain. Alors Marie, qu'est-ce que tu nous proposes comme lecture des terres aujourd'hui ?
Un roman noir de Ursula A. qui s'appelle La dernière poignée de sable.
Paru aux éditions...
Apso Édition.
Apso Édition, il y a peu de temps, puisque c'était en 2020, fin 2020.
Voilà.
Ursula, parle-nous de Ursula, Ursula A., l'autrice.
Ursula A. Connaît le Sahara occidental depuis une vingtaine d'années, a fait des recherches, a fait des voyages... et très intéressée par la problématique du Sahara occidental, qui est la dernière colonie d'Afrique. Mmh. Voilà.
Ursula A., alors c'est un pseudo, mais se cache derrière vraiment voilà, une personne qui connaît extrêmement bien le sujet. Alors, ça parle justement du Sahara occidental, mais avec une focale particulière. De quoi ça parle ?
Le Sahara occidental, c'est la dernière colonie d'Afrique, un problème non résolu, et c'est un polar, en fait. Et c'est un crime, dans un crime, dans un crime, dans un crime, enfin deux crimes, mais dans une situation qui est d'injustice totale et internationale, la situation du Sahara occidental.
Une sorte de thriller géopolitique.
Exact. Je ne sais pas si ça donne envie, si on dit ça.
Un peu fun.
Ouais, c'est super fun. C'est noir et tout.
Pour toi, le mot le plus important du livre, ou l'idée clé, ou le moment clé, qu'est-ce que ce serait s'il fallait sortir ?
Rude. Ou pas. Le moment clé, le moment où on avait décidé de publier le livre... et où c'était presque fini, toutes les retouches sur le bouquin, les liens avec l'imprimeur et tout ça. Et où il s'est passé une chose, c'est-à-dire la rencontre entre la fin de notre livre et l'actualité réelle du peuple sahraoui, c'est-à-dire la reprise de la guerre. Et ça, ça a été un moment où de flottement, un espèce de moment particulier où on s'est dit « mince, qu'est-ce qu'on fait ? Le livre, il tombe par terre ou non ?» Et finalement, non, c'est une fiction, le livre. Et bon, la réalité, c'est que la guerre continue, mais a repris et continue. Mais là, ça a été une chose particulière.
C'est peut-être aussi ce dialogue avec l'actualité qui lui donne une résonance particulière à ce livre, qui ouvre des pistes ou des manières de voir un peu singulières.
Alors, on lit un livre... on part dans le livre, on est embarqué dans les histoires plurielles et les atmosphères plurielles. Et en même temps, c'est complètement l'actualité de l'oubli du Sahara occidental. Mais on est dedans.
Pour toi, cette lecture, c'est plutôt une bouée pour éviter de couler dans les eaux incertaines de notre époque, une longue vue pour s'aventurer vers des horizons inconnus, une paire de lunettes pour voir différemment les choses. Ce serait quoi l'objet de vacances
Vas-y, colle les lunettes dans la longue vue, et ça devrait faire. C'est-à-dire qu'il faut ouvrir les yeux quand même, mieux voir avec les lunettes. Et la longue vue, loin, parce que c'est une histoire qui vient de loin, 1975, la deuxième colonisation, après la colonisation espagnole, et qui est l'histoire de l'indépendance d'un peuple, de la liberté, donc qui va loin aussi. Donc la longue vue loin de cette lutte qu'on a intérêt à mener tous les jours pour la liberté.
Pour toi, cette lecture, c'est une lecture quoi, d'éther, déterminée, détergente, d'éternité. Je ne souhaite pas.
D'éther, là-bas, la terre, c'est le sable, trab. Mmh. Et c'est de ça qu'on parle, de la terre qui est tout, qu'il faut respecter, qu'il faut préserver, et de l'âpreté vile, de la pas du gain des humains.
C'est, oui, ça parle beaucoup, une lecture d'éther, une lecture d'éther du Sahara. À qui tu offrirais ce livre en priorité?
À tous ceux qui veulent savoir et ceux qui ne veulent pas savoir, que ça leur fasse un petit peu des coups de poing à donner dans, je ne sais pas, les meurtres, c'est sympa, après tu as envie de... tu te sens mieux une fois qu'il y a eu plein de...
c'est une petite catharsis, ça fait du bien.
Et c'est ça, c'est tout à fait ça.
Un dernier mot avant de passer à la lecture. On peut se le procurer où, ce bouquin?
Alors, au tiers-temps, au Benin. Mmh. Et puis sinon, il faut contacter l'association APSO. L'adresse email, c'est absolument, avec un P, la deuxième lettre.
App.
Oui, ami du peuple du Sahara occidental, absolument. Après, le jeu de mots, il est lourd, mais il est beau. Et puis, peut-être qu'à la radio, vous pouvez venir à la radio, il y aura un dépôt.
Ouais. Si vous voulez vous en procurer, vous pouvez venir à Fréquence 7 aussi, on s'arrangera pour que vous en ayez un exemplaire. Eh bien, on passe tout de suite à la lecture.
Alors, des petits bouts. Parce que il y a pas de passages qui peuvent être... Appelez-moi Souba, non pas la conteuse, l'ancienne, la sage, la griotte, non plus l'historienne ou la narratrice, juste Souba, qui mêle les voix du passé et celles du présent et du futur pour raconter une histoire, dire mon histoire. Tout s'y mélange, mon pays, mes ancêtres, mes enfants, le monde entier. Cette histoire est un souk où l'on peut en rentrer par mille portes, se perdre à l'infini, tout en passant à côté de l'essentiel. Je suis Souba, et cela me donne le droit de la raconter comme je le veux, de sauter dans le temps et l'espace, dans la peau de l'un ou de l'autre, dans les faits et les spéculations. Je suis née près des dunes du Grand Sahara, il y a bien longtemps. Mes pieds m'ont portée loin depuis le jour où j'ai quitté la tente familiale. Souba, elle fait le... fil dans toute l'histoire. Alors, on part aussi dans les campements de réfugiés. Et là, c'est Mariem.
Deuxième extrait.
Voilà, c'est Mariem. Les tempêtes, c'est un peu le quotidien en cette saison. Un danger qu'aucun Sahraoui ne prend à la légère. Zara se souvient de l'an dernier, lorsqu'elle est sortie de la tente pour tendre un cordage, elle l'a vu. Un mur de sable de plusieurs dizaines de mètres de haut, sombre et opaque, qui avançait aussi vite qu'une voiture. Le mur a avalé tout sur son passage, faisant petit à petit disparaître l'horizon. La boutique de pain venait d'être effacée par la masse rougeoyante qui s'attaquait déjà au Land Rover stationné à quelques pas. Elle se souvient de la peur et de cette tempête qui est passée comme un cauchemar éveillé. Sous la Khaïma, tout le monde est resté assis à deux visées pour tromper l'inquiétude jusqu'à ce que la bête soit passée. Pas une parole entre les membres de la famille sur la tempête hurlante et cinglante. C'est le sable des dunes de ce campement d'Aoussert qui envahit tout. Asmara, dans les pierres noires, ciel et terre s'allient moins intimement. Elle le sait, mais préfère quand même son coin d'exil. Ça, c'est Zara. Et puis, dernier extrait. À ce moment précis, alors c'est Vincent. Là, on parle de Vincent. À ce moment précis, son unique réconfort est de penser que demain soir, Sam sera là. Quelqu'un de confiance, à qui se confier et surtout à qui il pourra tout expliquer. Réfléchir à deux. Débattre, confronter des idées, des points de vue et des hypothèses. Ils ont déjà fait ça mille fois. C'est aussi pour cela que Vincent a tout fait pour que Sam fasse partie du bureau. Non seulement parce que c'est un ami, non seulement parce que c'est un bon anthropologue, mais peut-être parce que Vincent sentait qu'il aurait besoin d'un coéquipier. Demain semble tellement loin, à se demander s'il arrivera un jour. Agir et anticiper, ne prendre aucun risque, ni pour lui, ni pour cette affaire qui sont trop mauvais. Il fouille la poche intérieure de sa veste et se dirige vers une des bibliothèques du salon. À force de côtoyer la paranoïa, depuis le début de cette mission, il a lui-même l'impression d'y sombrer, au diable. des précautions, c'est tout ce qu'il peut prendre d'ici demain. Il repart vers la cuisine, ouvre le frigo et sourit en voyant une canette de bière échouée dans le bac à légumes. Il s'assoit pour profiter de ce moment de répit en allumant la radio. Retour à la réalité et au monde qui l'entoure. Savourer une bière fraîche, assommée par la fatigue, c'est quelque chose qu'il a appris à apprécier. La porte d'entrée s'ouvre sans le moindre bruit. L'homme avance rapidement dans l'appartement. Il suit le bourdonnement de la radio et se dirige vers la cuisine. Vincent n'a pas le temps d'ouvrir la bouche, pas le temps de réagir, peut-être même pas le temps de penser. Le choc, la bouteille se brise au sol.
Et la suite? La suite, c'est à découvrir dans ce livre, La dernière poignée de sable de Ursula A., paru chez Apso Éditions. C'était le conseil de lecture de Marie. Tu as choisi ces trois extraits qui nous plongent effectivement dans des univers assez... dans des voix différentes.
Et, il manque la voix du méchant.
À redécouvrir, donc, La dernière poignée de sable de Ursula A. Vous pouvez vous le procurer à la librairie du tiers-temps ou via l'association App. Absolument avec un P, ou ici à Fréquence 7. Merci beaucoup, Marie. Nous, on se retrouve bientôt pour une autre lecture d'été, lecture des terres, même heure à 11h ou 16h, et en replay sur fréquence7.net. D'ici là, restez vigilants grâce à la lecture. Lecture d'été, lecture des terres, tous les jours à 11h et à 16h et en replay sur fréquence7.net. Lecture d'été, lecture des terres.